Les hommes et les femmes ont des cordes vocales de taille différente. Les hommes adultes ont généralement des cordes vocales plus longues, soit entre 17 et 25 mm. Celles des femmes se situent entre 12,5 et 17,5 mm. La voix de chaque individu est unique, du fait de la forme et de la taille non seulement de ses cordes vocales, mais aussi du reste du corps de la personne.
Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets. I don't like it anymore.
Eh bien, comme je vous l'ai annoncé hier, n'étant pas à l'antenne lors de sa disparition, cette nuit, j'ai tenu, même un peu en retard, à faire revivre le temps d'une petite heure, le merveilleux Louis de Funès qui, il y a deux semaines déjà, est parti au-delà des nuages faire des farces à Saint-Pierre. C'était le 21 juin...
Je ne te fous jamais de moi, hein !
Qu'est-ce que tu veux, toi ?
Figurez-vous que lorsque nous regardons la personne au niveau de ses cordes vocales, au niveau de ses cavités de résonance, et lorsque nous analysons sa façon de respirer, c'est aussi varié que de dire, ben oui, tout le monde a une figure, tout le monde a des yeux, tout le monde a un nez, tout le monde a une bouche. Et c'est donc ainsi que la voix est vraiment l'empreinte particulière de la personne.
La voix révèle beaucoup de choses sur la personne. On peut entendre les accidents de parcours, on peut entendre une histoire, on peut entendre un positionnement dans la vie, on peut entendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
C'est une identité qui n'est pas qu'extérieure, qui est d'office liée aussi à un caractère. Pour moi, quelqu'un qui a une voix qui est trop perchée, je crois que souvent les propos ne m'intéressent pas non plus, en fait. Est-ce que la voix, c'est le reflet de l'âme ?
On peut faire passer plein de choses dans la voix. On peut faire passer la douceur, on peut faire passer la rage, on peut faire passer la haine, on peut faire passer l'amour, on peut faire passer tout ce qu'on veut. On peut tout faire avec la voix, c'est clair. Y compris masquer ce qu'on est vraiment, si on veut.
Voilà, entrez, venez. Venez vous asseoir. Je vous en prie. Vous allez vous asseoir sur la table d'examen. Et je vais vous proposer de faire une étude de mobilité de vos cordes vocales.
Le docteur Nawara est ORL. Il nous reçoit dans son cabinet.
La voix est la résultante de différentes interactions entre ce que nous appelons dans notre jargon les organes phonatoires. Vous avez une soufflerie qui est représentée par les poumons, qui envoie de l'air sous forme d'expiration. Et ce flux d'air expiré va présenter des oscillations au niveau d'un organe vibrateur qui sont les cordes vocales. Et cet air expiré va être transmis à travers les organes résonateurs. Et c'est l'ensemble de ces organes, le nez, la gorge, les cordes vocales, les poumons, qui va aboutir au son que représente la voix avec toutes ses caractéristiques de tessiture, d'harmonie, d'auteur, de timbre et d'intensité. Alors j'ai ici une petite fibre optique souple. Je vais vous proposer d'ouvrir la bouche, de sortir la langue. Respirez bien par la bouche. Et je vais vous proposer maintenant de prononcer le son E. Parfait. Sortez bien la langue, respirez toujours bien par la bouche. Encore une fois. E. Très très bien. Donc là, je suis en train de regarder le mouvement de vos cordes vocales. La voix, c'est quelque part comme une empreinte digitale, elle est unique. Et le fait de parler, c'est déjà une partie de soi que l'on donne à l'autre à travers la voix. Mais on peut déjà décrypter pas mal d'émotions qui sont parfois conscientes, parfois inconscientes. Lorsque on ressent une émotion profonde par rapport à une voix, ça nous ramène à notre histoire personnelle. On peut remonter très très loin, déjà dans le cadre de la grossesse. Le futur bébé a déjà une relation très intime au travers des sons qu'il perçoit de sa maman. Et certaines études ont prouvé que certaines personnes adultes sont parfois plus en phase avec certains sons parce que la particularité, l'enveloppe spectrale du son se rapproche de l'enveloppe spectrale de la voix de la maman. chaque individu, par rapport à ce qu'il a pu expérimenter dans sa vie émotionnelle, va être plus ou moins sensibilisé par telle ou telle voix.
I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you will never in your life ever have to worry about me.
Barry White est un peu le symbole de la voix grave, et certaines études, notamment en Écosse, ont laissé penser que les femmes étaient beaucoup plus sensibles aux voix graves d'hommes que des voix aiguës. On leur demandait de mémoriser des objets. Et on s'est rendu compte que lorsque ces objets étaient énoncés avec une voix grave, la capacité de mémoire de ces femmes était plus importante. Et à ce moment-là, on s'est dit que la fréquence de la voix moduler probablement une espèce d'attirance qui rentre dans le jeu amoureux. Certains disent d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle Barry White, on lui prête 8 enfants. Donc c'est que quelque part, il devait avoir quelque chose de vrai dans cette chose-là. Mais en même temps, les études sont parfois un petit peu confuses parce qu'on dit également qu'une voix grave va apporter la sécurité, une relation durable, que les femmes qui sont en quête de relations moins stables seront moins attirées par les voix graves. Et là, ça contredit Barry White, qui a quand même eu 3 épouses successives. Alors, il y a toute la connotation de la voix qui peut être induite par la société, par la culture, par l'éducation. Par exemple, dans nos sociétés occidentales, on part du principe qu'un homme, pour assurer une certaine autorité, un certain pouvoir, on va plus lui donner une connotation de voix grave. Mais ceci est tout à fait différent dans des contrées comme par exemple dans certains pays d'Afrique du Nord ou en Orient, où là, un homme qui a un certain pouvoir, une certaine autorité, on lui prêtera plus une voix, je dirais pas aiguë, mais moyenne. Et donc il y a une culture à cela. De même que l'on peut parler de l'esthétique de la voix. Et l'esthétique de la voix actuellement dans nos sociétés est plus attirée vers des voix qu'on va qualifier un peu cassées, de voix un peu éraillées. Il suffit de voir le succès de certains chanteurs de variété, quasi les plus grands chanteurs de variété ont tous des voix cassées, ou certains acteurs ont des voix cassées. Et donc l'esthétique de la voix évolue avec les mentalités, avec les sociétés, ce qui est très intéressant dans une société qui est beaucoup basée sur l'oralité.
I fell into the ocean, and you became my wife. Rested all against the sea and have a better life. Breathe you all the wild blue sky and the foolish things.
C'est à toi qu'il faudrait demander cela.
Bah, qu'est-ce que j'ai?
Reprends un moment où tu vis, tu es bien jolie.
Oui.
Voilà, il faut une rupture de ton là. Bien jolie pour.
Tu es bien jolie ces jours-ci.
Au conservatoire à Bruxelles, Daniela Visconti nous accueille à l'un de ses cours.
Tu es jeune. Tu t'épanouis.
Bon, ici, il faut absolument réenvisager ça plus concrètement et avec énormément de sourire dans la voix. Il y a des choses non avouées. Donc, ils disent quelque chose, ils en pensent une autre. Hein, quand il dit « tu es bien jolie ces temps-ci », il lui demande autre chose. Donc, le sous-texte est plus important que le texte. Et ça passe dans la couleur de la voix. Mais pour ça, il faut penser juste. Donc, alors, quand elle dit « j'étais moche alors, j'étais laide alors », non, tu étais jeune, c'est-à-dire tu étais inexpérimentée. C'est ça qu'il est... Voilà, il y a un double texte qui ne peut... Allez, on reprend.
Qu'est-ce qu'il y a?
C'est à toi qu'il faudrait demander cela.
Qu'est-ce que j'ai?
Alors, Daniela Visconti, on est ici, salle 123 du conservatoire. Donc, vous donnez cours à des étudiants, ici, pour un travail face à une caméra.
C'est un module cinéma, effectivement, où le jeu cinéma est pris dans les impératifs techniques du cinéma, c'est-à-dire un cadre précis, un découpage précis et surtout un paramètre vocal qui est très différent de celui du théâtre, même s'il vient d'un même matériau, puisque ça reste toujours le comédien qui s'exprime, il doit tenir compte des paramètres qui changent autour de lui. La technique étant de soutenir une intention et de laisser le corps traduire quand il s'agit du jeu physique, mais la voix est physique, c'est-à-dire que si on ressent les choses exactement au moment où elles sont exprimées, la voix traduit immédiatement. Et donc, le tout est d'affiner ce véhicule. Et là, il y a toute une série d'exercices qui permettent d'affiner, un peu comme quand on fait du vélo, plus on en fait et plus c'est souple. Les idées doivent traverser les mots. Et donc, à partir du moment où on travaille sur ce registre-là, c'est le sous-texte qui l'emporte sur le texte et la voix suit. Parce que la voix est très intelligente, comme le corps est très intelligent, beaucoup plus que nous.
Parce que je voulais t'embrasser, figure-toi. D'ailleurs, nous aurons toute la nuit, n'est-ce pas ?
Oui.
Ça se sent pas ? Il faut laisser monter l'intention. Ressens ce que tu dis. Et alors, ce que tu vas dire va avoir cette couleur-là. Vous serez toujours trahi. Surtout, vocalement, on est trahi. Parce que quand on n'a pas l'image, on a la vérité du son. Et quand on n'a pas la vérité du son, on a la vérité de l'image. On a les deux ensemble. Ça, il faut le rendre physique. Et pour le rendre physique, il faut le ressentir. Voilà.
On peut y aller. Venez, venez. Tout le monde est là ou pas ? Non ?
Dans la salle d'à côté, Jean-François Brion travaille la technique vocale.
Ok, mettez-vous en cercle comme d'habitude. Ok, et les pieds plus ou moins dans le prolongement des hanches. Comment est-ce que vous êtes porté par le sol aujourd'hui ? Relâchez un tout petit peu les genoux. Et on peut relâcher la mâchoire.
Mais professeur de technique vocale, c'est peut-être permettre à l'élève d'abord de trouver sa propre voix pour commencer, de trouver une voix personnelle, de trouver une voix vibrante, débarrasser des tensions. Ce serait un peu l'image finalement de on pourrait avoir des étouffoirs sur la voix et les étouffoirs, ce seraient les muscles. Donc la voix, elle se transmet par voie aérienne, mais elle se transmet aussi par vibration osseuse. Et donc les muscles viennent faire des gaines autour des os et qui empêchent la vibration. Donc c'est comment finalement, et c'est beaucoup là-dessus qu'on travaille, comment être porté par le sol sans se prendre en charge soi-même, donc avoir un tonus suffisant tout en étant tout à fait détendu et tonique.
Arrêtez-vous et commencez à respirer là. Est-ce que déjà quelque chose s'est resserré ? Et tout en marchant, hey. Oh, il est triste celui-là.
Parfois, on remarque, j'ai parfois des élèves qui ont de la voix ici. Enfin, ça sonne, ça résonne, c'est agréable. Et puis, ils arrivent avec un extrait de texte. Et puis, il n'y a pas de voix. Il n'y a pas de voix parce que parfois, ils prennent trop en charge émotionnellement. Voilà, et qu'on peut parfois leur dire si tu faisais confiance au texte. Hein, avant de vouloir tout prendre en charge émotionnellement et de tout serrer. Parfois, c'est parce qu'ils ne comprennent pas le texte. Tout à coup, on leur demande « Oui, mais pourquoi tu dis cette chose-là » ou « Qu'est-ce que ça raconte vraiment ?» Et alors, parfois, la voix se débloque simplement par rapport à ça aussi. Donc, il n'y a pas qu'un facteur physique, il y a aussi un facteur d'envie, aussi, parfois. D'envie de se mettre en relation avec l'autre. Ça, c'est quelque chose que je dégage un peu plus cette année. C'est « Oui, mais en quoi est-ce que la personne à qui tu t'adresses, en quoi est-ce que tu veux qu'elle soit modifiée après ?» C'est-à-dire qu'elle aura peut-être changé d'humeur ou elle aura peut-être changé d'avis sur un sujet. Et à partir du moment où il y a cette notion de non, je ne me parle pas à moi-même et je n'essaye pas d'être bien et de bien dire un texte, mais j'essaye de me mettre en relation et de raconter une histoire et de modifier cette personne dans son humeur, oui, dans son avis aussi, quand ce sont des textes plus engagés, ça change pas mal de choses en général.
Arrêtez-vous et ça donnerait quoi un tout petit bout de texte à vous, madame? Pas moins fort que dans la vie. Il n'y a pas de raison de parler moins fort que dans la vie.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. are laughable, unphotographable. Yet you're my favorite work of art.
Le docteur Millet ORL nous attend. Elle est une référence dans le domaine de la voix.
Nous abordons un sujet particulier, qui est justement celui de la voix, qui est finalement l'empreinte de la personne à distance. Elle n'est pas devant vous, vous ne pouvez pas observer sa physionomie. Vous avez l'écoute comme seul élément d'analyse, si on veut parler en termes un petit peu théoriques, mais surtout aussi de la dimension affective. Et vous savez dire que vous reconnaissez cette voix entre toutes, et vous savez dire aussi quel est l'état physique et moral de la personne qui vous parle.
Vous disiez qu'il y avait des personnes qui ne sont pas du tout sensibles à la voix, alors que c'est quelque chose qui est un vecteur de communication immédiat entre l'autre et soi.
Je vous rejoins tout à fait. Mais je pense que cela tient à l'éducation. C'est un des problèmes d'ailleurs qu'on peut se poser, que l'attention que l'on accorde à cette communication, que l'on éveille l'enfant à l'écoute, que l'on éveille l'enfant au rythme, aux variations d'intensité, aux variations de tonalité, est une dimension essentielle, pas seulement au phénomène de la voix, mais réellement au phénomène de la communication. Il y a actuellement des situations très interpellantes et je l'ai connue la semaine passée. Un papa me dit « Si, il va apprendre le français, lui, il regarde la télévision. » Oui, et qu'est-ce que vous lui dites ? « Oui, non, moi, j'ai pas beaucoup de temps. Lui, il regarde la TV, moi, je m'occupe de mon business. Et votre épouse ? Ah, mon épouse aussi, elle est liée à des problèmes de facturation, elle n'a pas le temps. Lui, il peut regarder la télévision. » La question que je pose régulièrement dans ces cas-là, c'est qu'est-ce que la télévision lui demande ? Qu'est-ce qu'il peut répondre, lui, à la télévision ? En quoi la télévision va-t-elle vraiment le rencontrer et lui dire « Tu as faim ? Est-ce que tu n'as pas froid ? Tu es fatigué ?» Ce sont toutes des dimensions où nous ne serons pas remplacés dans le lien « nous » avec l'enfant. Et c'est là que commence l'apprentissage de l'écoute et réellement du lien dans la communication.
Le constat que je fais, c'est que mon mari a des difficultés mécaniques lorsqu'il doit s'exprimer.
Je suis prêt à travailler assidûment, docteur Logg.
Lionel.
Et vous, êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut pour m'aider ?
Eh bien, soit. De la mécanique pure, il nous faut détendre les muscles de la mâchoire, renforcer la langue. Par exemple, des exercices de diction qu'on répète. C'est moi le sieur de souche. Je suis un fiefé sieur de souche qui s'y s'en va souche sans souci parce que je suis un sieur de souche.
Bien.
Et je vois que vous avez le ventre mou, donc il nous faudra aussi renforcer le diaphragme. De la simple mécanique.
Je reviens dans une semaine.
J'ai l'intention de vous voir tous les jours. Vous sentez la mâchoire qui se détend. Bien, des petits sauts, on sautille. Épaules relâchées. Bien, les mâchoires.
Dans ce film de Tom Hooper, Le discours d'un roi, le prince Albert d'York est appelé à monter sur le trône britannique. Or, il présente un grave problème de bégaiement. C'est un orthophoniste qui l'aidera à surmonter ce handicap. Nous avons rendez-vous avec la logopède Thérèse Stockard.
Quand on a un patient qui vient en consultation, dont la plainte est un problème de voix, il faut toujours resituer ce problème de voix dans la globalité du patient, dans sa réalité organique, dans sa réalité sociale, dans sa réalité psychologique. La voix fait partie de l'intimité de la personne.
Comment ça se passe une séance de logopédie ?
Donc il y a deux parties. Donc il y a la partie d'abord diagnostique. On retire le maximum d'informations sur la santé organique du patient. On lui demande également au niveau de sa profession, ce qu'il fait, s'il utilise sa voix, dans quelles conditions, si cette voix est vraiment un outil professionnel pour lui ou pour elle? Quel est l'impact dans sa vie sociale, professionnelle, familiale? Comment l'entourage, qu'il soit professionnel, social ou familial, vit le problème de voix de cette patiente? Après cette anamnèse, on fait un examen avec à la fois des épreuves objectives, ça veut dire des mesures acoustiques de la voix, mais également des observations cliniques. Dans la voix, pour l'émission du son, il y a trois étages. Il y a d'une part la soufflerie, il y a l'étage laryngé où se trouvent les cordes vocales, et il y a toute la partie des organes de résonance. L'émission du son nécessite l'intervention de ces trois niveaux en même temps, et il faut qu'il y ait une bonne coordination. Et pour qu'un geste soit bon, il faut qu'il soit à la fois souple et tonique. Alors, on y arrive parfois par des exercices de respiration, par des exercices de son. Quand on parle, on utilise l'intonation, on joue sur la fréquence, on joue sur les arrêts dans le discours. Et cette prosodie est vraiment importante pour que la communication soit agréable. On se souvient tous d'enseignants qui ont comme ça une voix très monotone et qui finalement nous ennuient et ne nous donnent pas l'envie d'apprendre et d'écouter. J'ai déjà eu des patients qui n'avaient plus de voix du tout, qui étaient dans l'incapacité de travailler, et quand ils retrouvent le son et qu'ils peuvent à nouveau communiquer, ils sont touchés, certains sont émus, certains en pleurent. Et effectivement, à ce moment-là, je trouve ça extraordinaire. Quand le patient vient en rééducation et puis qu'il retourne chez l'ORL et que l'ORL lui dit « il n'y a plus de lésion », ben voilà, moi, je suis contente.
Bonjour. 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 Aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre. Il fait froid, ça y est, c'est l'hiver et je suis triste.
En 2001, lors d'une tournée au Canada, la comédienne Delphine Salquin perd sa voix. Un problème de kyste multiple va la priver de son organe pendant près de 10 ans. Le spectacle Intérieur Voix, présenté au Rideau de Bruxelles, raconte ce long tunnel.
La voix, c'est un luxe. C'est-à-dire qu'au fond, on croit que ça n'est pas un élément vital. Et quand on le perd, on se rend compte que c'est un élément vital dans le sens où tout être humain est un être social. Et quand on perd la voix, on perd le lien aux autres, le lien au social. Et en effet, c'est la vie sociale qui s'efface. C'est le métier qui est à la fois le métier d'art. Et là, il est vrai que j'étais touchée très charnellement en tant qu'actrice. Au départ, on pense que la voix va revenir. Quand finalement la voix ne revenait pas malgré une première chirurgie, là, j'ai commencé à m'inquiéter. Et j'ai commencé à devoir faire tout un autre chemin parce que j'ai réalisé que c'était perdu. Et ça prend du temps de perdre. Et c'est cette durée-là qui a fondé après toute ma vie. Parce que cette durée a fait que j'ai dû chercher, patienter, réfléchir, m'observer, m'enregistrer, voir dans quelle posture j'étais, essayer de comprendre. Et puis après, je suis allée vers les autres. Et les autres qui pouvaient m'entendre, c'est-à-dire les thérapeutes, psychanalystes, les professionnels de la voix, des chanteurs... Et en fait, c'est très étrange parce que le problème est devenu presque ma force. Et donc après, c'est vrai qu'il y a tout un parcours qui fait que quand même, c'est la médecine qui finalement a répondu et a trouvé une solution. Mais donc voilà, tout ce voyage intérieur, il s'est fait dans la durée.
Alors une autre question, mais qui nous intéresse beaucoup, Delphine Salquin. Vous dites, dès la plus tendre enfance, même dans le ventre de sa mère, on entend, on est relié par la voix. Alors quand une mère ne peut plus parler... Qu'est-ce qui se passe ?
C'est dur. Moi, j'ai eu deux petites filles. Je pouvais parler, mais ça me demandait énormément d'efforts. Par exemple, dans la rue, je devais courir derrière elles, puisque je ne pouvais pas les appeler de loin. Je touchais les gens beaucoup plus, me mettre à la hauteur pour pouvoir parler. Quand j'étais en duo, seule à seule, ça allait, doucement. Mais dès qu'il y avait trois personnes, voilà. En fait, la voix naturelle est perdue. Parce qu'elle n'est plus simple, tout devient compliqué. Donc on est obligé de penser avant de parler, il faut que je dise ceci. On a l'impulsion de dire mais il faut que je trouve des mots, que ce soit en peu de mots, et puis le temps est passé, on ne dit rien. On dit bon, c'est pas la peine.
Chez moi,
Miss Nicole et un Nicolas.
Ok.
La soprano canadienne Barbara Hannigan se produit régulièrement à La Monnaie. Elle nous reçoit dans son studio.
Il y a longtemps, ma mère m'a donné les enregistrements où nous avons chanté avant qu'on peut parler. On peut répéter les mélodies, les harmonies avant que les mots. Ouais.
Et donc, dès que vous étiez toute petite, avant 2 ans et demi, vous chantiez déjà. Et quand est-ce que vous avez su que ce serait par la voix et par le chant que vous vivriez ?
Le chant classique, c'est quand j'avais 17 ans. J'ai commencé à 7 ans avec les leçons de ma prof à Toronto. Et elle me donne l'inspiration aussi pour la musique contemporaine, classique. Oui, c'est le moment que j'ai choisi ce chemin.
Et alors, votre voix, quand vous chantez, est-ce qu'il y a un rapport différent quand vous chantez une partition plutôt que quand vous parlez?
Oui, c'est très différent. Mais j'ai noté que ma voix, quand je parle, a changé les 2 ou 3 années passées, un peu. C'est moins haut, avec un plus qu'autorité, un peu. Mais peut-être c'est parce que je parle aux orchestres quand je dirige. C'est différent. Hein. Ou c'est l'âge. j'ai plus que 40 ans maintenant. Mais... Et ma voix de chant a changé un peu aussi. Et j'ai décidé de laisser quelques rôles parce que je veux un peu plus que la femme et moins que la fille.
En fait, vous avez envie de suivre aussi le chemin de l'âge, vocalement.
C'est pas juste la voix, c'est le corps total. Hein? C'est aussi l'esprit, l'âme, les expériences. C'est total, c'est mes pieds, c'est mon cœur, c'est ma tête, c'est les pensées, les sentiments, les émotions. C'est tous, c'est différent chaque soir. De temps en temps, c'est très difficile parce que j'ai pas un contrôle 100%. Ouais, c'est spécial.
Justement, la voix, on dit que c'est le miroir de l'âme.
Ouais.
Et comment est-ce qu'une chanteuse lyrique comme vous pouvait chanter parfaitement un air de femme joyeuse alors que vous avez envie de mourir de chagrin?
Pour moi, il y a tout le temps chiaroscuro.
Clair-obscur.
Oui, tout le temps. L'ombre et lumière. Dans la joie, il y a l'ombre. Dans la tristesse, il y a un peu de lumière. Il y a beaucoup de perspectives dans un son, comme un prisme. J'adore beaucoup des voix, mais c'est la connexion. J'ai écouté hier un clip de nouvel film Into the Woods, c'est un musical de Sondheim, et Meryl Streep chante le rôle de The Witch.
Qu'est-ce que...
Sorcière. Et elle a chanté fantastiquement. Ça me touche très fort pour moi. Elle n'est pas une cantatrice professionnelle, mais la voix, c'est, il y a une connexion de l'émotion que j'aime beaucoup. Princes wake there in the world, it's true. Princes, yes, but wolves and humans too. Stay at home.
Ah, oh, bonjour, Laure.
I am home. Who up there could love you more than I? What up there that I cannot supply?
Voilà, et on va commencer par la pratique du humming, c'est-à-dire muser le son. C'est une sorte de méditation, en fait. Donc juste être dans le ressenti et l'observation des résonances pendant cette pratique.
Laure Stellin est musicienne. Depuis quelques années, elle anime des cercles de voix où sont pratiqués les chants de guérison.
Dans ma vie, il y a eu une grande épreuve. Je suis tombée gravement malade en 2010. Et cette épreuve m'a obligée à chercher du sens, à retrouver du sens, à ralentir. Enfin, ça a vraiment été quelque chose d'énorme dans mon parcours de vie. Et j'ai eu envie de revenir à des choses très simples. Et le plus simple, en fait, c'est l'instrument qu'on a partout avec soi, c'est la voix. Et en fait, quand je chante, je contacte de la joie. Et je suis revenue avec ça, cette chose tellement évidente. Ben oui, mais en fait, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est d'avoir de la joie. Et qu'est-ce qui me donne de la joie? C'est chanter. Et donc, je suis allée au chant. Je suis allée vers le chant. C'est ça qui fait le parallèle entre la voix VOIX et la voix VOIE. Quand on chante, on s'accorde d'abord avec soi-même, c'est-à-dire qu'on met en résonance les différentes parties de son corps et il y a quelque chose qui s'équilibre. Ça s'accorde avec l'entourage, donc avec les autres personnes, mais aussi avec notre environnement. Et évidemment, s'accorder avec son environnement, c'est entrer en vibration avec ce qui est plus vaste que nous. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'univers, on peut appeler la vie, juste la vie.
Lam, 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 lam.
Le deuxième chakra, vam.
Vam, 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 vam.
En fait, c'est une pratique, la pratique des sons, qui s'inscrit dans une tradition très, très ancienne. Certains disent une tradition chamanique. Donc, en fait, des guérisseurs, les guérisseurs de toute tradition ont toujours utilisé les chants et la voix pour induire une guérison, pour soigner. Dans ces cercles, en fait, on ne cherche pas du tout le résultat ou la performance, ou même il n'y a pas des critères de beauté au sens classique du terme. C'est une pratique. Donc, comme on pratiquerait des postures en yoga, là, on pratique la voix, donc certaines manières de chanter qui vont nous mettre en contact avec notre intériorité, en fait. Après, on peut dire du chant, enfin, il y a des effets très physiologiques qui sont décrits. Hein. Donc, le fait de, par exemple, la pratique du humming, donc muser le son, ça dégage les sinus, ça ouvre les résonateurs. Du coup, il y a une réduction du stress, il y a un ralentissement du rythme cardiaque, donc qui ont pour effet de sentir plus de sérénité. Donc, on peut décrire aussi des effets physiologiques plus précis. On dit que les hommes chantent des chants chamaniques depuis 30 000 ans, donc ça c'est quelque chose que j'ai lu. Je crois que l'humanité a toujours été accompagnée par des chants. Je pense notamment au passage, en fait, au moment de passage, donc que ce soit les moments du mariage, et alors le passage le plus important, le moment de la mort. Donc il y a des chants qui accompagnent ces passages. Et donc là, on est effectivement dans la dimension du sacré et dans les rituels. Encore récemment, on chantait pour accompagner les travaux des chants, pour bercer un enfant, endormir un enfant. Enfin, tous les moments de la vie étaient chantés, finalement. Et c'est vrai que c'est assez récent qu'avec la modernité, tous les moyens qu'on a aussi de communication, la télévision, tout ça, on a moins ressenti le besoin. Et à la fois, il y a un appel, c'est-à-dire que les gens demandent à chanter.